Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Chers auditeurs et passionnés d'astronomie, bienvenue dans À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel sur IDFM Radio, où l'on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Après une pause estivale indépendante de ma volonté, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 15 septembre de 13h à 14h. Comme chaque été, cette émission prend ses quartiers d'été en se délocalisant pour vous faire découvrir des lieux fascinants dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. En cette année 2024, marquée par les 80 ans du débarquement, je vous propose une émission spéciale en rediffusant un épisode mémorable consacré à la coupole. Cette émission a été diffusée à l'origine le 18 septembre 2013. La coupole, ce lieu emblématique, a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale et est bien plus qu'un simple bunker. C'est un site qui incarne les prémices de la conquête spatiale, car c'est là que les premières technologies qui ont permis l'exploration de l'espace ont vu le jour. Nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante de la coupole et comprendre comment elle a joué un rôle dans l'histoire de l'astronautique moderne. Restez à l'écoute et profitez de cette plongée dans un lieu où passé et futur se rencontrent. Bonne écoute et merci de votre fidélité à l'émission À toi les étoiles. Je suis cependant pas très loin de la frontière belge, puisque je me trouve à Saint-Omer, à 250 km à peu près de Paris, entre Lille et Calais, tout près de Calais en fait, dans un lieu qui s'appelle La Coupole. Un nom très évocateur, c'est vrai, pour les astronomes, on va tout de suite penser à la coupole d'un observatoire astronomique, mais finalement, ce n'est pas ce genre de coupole-là, c'est un peu spécial, ça concerne en fait la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, vous allez dire, Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça vient faire dans l'astronomie, l'astronautique ? Mais vous allez voir, justement, parce que figurez-vous que les satellites qui sont au-dessus de nos têtes, qui nous permettent d'utiliser téléphone, la télévision, ou encore les fusées qui ont été lancées, comme Saturne 5, les missions Apollo, etc. Et bien c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale. Et justement, j'ai mon interlocuteur aujourd'hui qui est Julien Cadet. Monsieur Cadet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Franck.
Merci de m'accueillir ici à la coupole. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer un peu l'historique de ce lieu ?
Oui, bah bienvenue, hein, bienvenue à tous en tout cas, ici à la coupole près de Saint-Omer. Ici on est au pied du dôme de la coupole qui est en fait un bunker géant, qui est un grand dôme de 90 mètres de diamètre, avec des murs épais de 5 mètres et demi d'épaisseur de béton armé. Et ce grand complexe souterrain et protégé par ce dôme, eh bien, était destiné à lancer la première fusée jamais inventée par l'homme, la fusée V2, le premier engin stratosphérique de l'histoire. Et c'est en fait, la coupole est en fait quelque part le berceau de la conquête spatiale.
Alors voilà donc pour le thème de cette émission à toi les étoiles. Alors on va pénétrer à l'intérieur et visiter donc ce circuit. Alors comment ça se passe ? On arrive à l'entrée, ensuite il y a plusieurs langues je pense.
Oui, la coupole est un site d'histoire, un site de science et aussi un site évidemment touristique qui est visité par plus de 150 000 personnes tous les ans, dont une moitié d'étrangers. Donc c'est un site qui est accessible entièrement à toutes les nationalités. Et la coupole, c'est en réalité deux équipements distincts. La coupole, vous avez le centre d'histoire qui est donc cette base de lancement de fusée V2, donc ce bunker géant, ces galeries, ce dôme colossal. Mais la coupole, c'est aussi un planétarium 3D dont on va parler tout à l'heure, je crois, et qui vient prolonger l'histoire par les sciences et les sciences de l'espace.
Alors là, on est dans un tunnel ferroviaire. On a même pu entendre lors de notre entrée des bruits d'explosion pour nous remettre un peu dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, ici on est dans un vestige, hein, véritablement un vestige de la Seconde Guerre mondiale, dans ces galeries de béton, sous ce dôme de béton armé. On est vraiment en plein cœur du Reich nazi qui a ordonné la construction de cet immense complexe souterrain à partir d'octobre 1943. Plus de 6 km de galeries souterraines ont été creusées et complété par, par ces murs, ces arches immenses de béton armé dans lesquels on est en train de marcher. Et ces galeries étaient reliées à une salle principale, donc le dôme, avec 71 mètres de diamètre intérieur. Et bien ce dôme qui devait servir à préparer, à dresser, à assembler les fusées V2 d'Hitler. Cette fusée V2 sur laquelle eh bien, le Reich nazi comptait pour inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale à partir d'octobre 1942, puisque c'est en octobre 1942 que la fusée V2 est mise au point par un jeune ingénieur allemand, Werner von Braun, qui a 30 ans à ce moment-là, 30 ans quand il met au point la fusée V2, 14 mètres de long, un poids total d'à peu près une tonne d'explosifs en transport, hein, et qui avait une vitesse évidemment impressionnante, puisque à son arrivée, la fusée V2 touchait sa cible à environ 3900 mètres par seconde. Donc c'est un engin terrifiant, la première fusée jamais mise au point de cette dimension, et finalement une arme de terreur, une arme destinée à tuer les civils. Elle est mise au point à partir d'octobre 1942, et un an plus tard, en octobre 1943, eh bien on décide d'industrialiser son tir, puisque entre-temps on en a fabriqué plusieurs milliers d'exemplaires. On en a aussi lancé plusieurs milliers, à peu près 6000 fabriqués, 3000 lancés depuis des bases mobiles. Et puis on décide la construction de la coupole de cet immense complexe souterrain, ce bunker géant aux allures de soucoupe volante posé comme ça dans la campagne de Saint-Omer. Et l'objectif était de lancer 50 fusées V2 par jour sur Londres, qui a moins de 5 minutes, puisque la fusée en décollant d'ici devait mettre moins de 5 minutes pour aller toucher l'Angleterre. 50 fusées par jour, avec une tonne d'explosifs à chaque impact. Je vous laisse imaginer qu'en quelques jours, l'Angleterre, déjà fort affaiblie, eh bien, aurait rapidement sombré et serait tombée dans les mains des nazis.
Qu'est-ce qui fait que, justement, ça n'a pas marché ?
La fusée V2 a fonctionné à partir de 1942 et jusqu'à la fin de la guerre. Des fusées V2 sont tirées, donc de base légère, depuis des camions, hein, plus ou moins, qui servaient à dresser la fusée et à la lancer, à la mettre à feu. Mais cette base a été repérée très tôt, évidemment, par les services secrets, et notamment l'aviation anglaise qui photographiait constamment le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Puisqu'évidemment, ce dôme énorme de 71 mètres intérieur eh bien, ne pouvait pas passer inaperçu des caméras anglaises. Donc il a été repéré très tôt. Et puis à partir donc, de mars 1944, soit à peu près 6 mois après le début de la fabrication, eh bien, on commence à bombarder ce site, puisqu'on commence à sentir le danger. Combiné à la fusée V2, les Alliés ont bien évidemment compris qu'il s'agissait de la base de lancement de fusée. Encore une fois, une fusée toutes les demi-heures sur Londres aurait pu inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc on décide de bombarder à partir de mars, et le coup final est porté à la coupole en juillet, le 6 juillet 1944. C'est la date à laquelle le site est abandonné après d'intenses bombardements, notamment avec des tall boys. Il y a plus de 3000 tonnes de bombes qui sont tombées sur la coupole pendant toute cette période. Et il faut s'imaginer le paysage lunaire qui entourait cet immense dôme de béton. Des victimes civiles, évidemment, tout à côté. Mais ce dôme, finalement, n'a jamais bougé d'un pouce. À part, évidemment, quelques petits éboulements, la coupole est restée intacte sous ses 5,5 mètres d'épaisseur de béton armé. Cette forme de cloche lui donnait une résistance au choc impressionnante. Les bombes rebondissaient dessus, glissaient sur les côtés, et jamais une bombe n'a réussi à anéantir la coupole. Alors aujourd'hui, on visite cette coupole qui restait intacte, évidemment, et tout le centre d'histoire est développé à l'intérieur. Et là, on est actuellement sous ce dôme. On a au-dessus de la tête quand même 55 000 tonnes de béton armé. En poids, c'est l'équivalent de 5 fois le poids de la Tour Eiffel, à peu près. Ou alors, c'est l'équivalent aussi du porte-avions Charles de Gaulle qu'on a au-dessus de la tête. C'est 70 mètres de diamètre intérieur de ce béton à 360 degrés, évidemment. Cette grande soucoupe qui est posée ici est un véritable témoin de la folie et de la démesure nazie au moment où le Reich eh bien, perd un peu ses positions en Afrique et est embourbé sur le front Est. Eh bien, cette coupole devait permettre de combattre l'Angleterre et d'anéantir cette base alliée sans avoir besoin d'hommes, puisque dans cette base, les fusées qui devaient décoller allaient détruire Londres sans avoir besoin d'envoyer des troupes. C'est ça toute la stratégie d'Hitler à ce moment-là. C'est pour ça que cette base absolument impressionnante est construite. On est complètement en pleine science-fiction là actuellement. Il faut s'imaginer qu'on est en 1943 et 1944. Mais finalement, elle est repérée, elle est bombardée. Et le 6 juillet, elle est abandonnée, puisque toutes les routes sont inutilisables, toutes les voies de chemin de fer sont détruites, les poteaux électriques n'existent plus. Et en même temps, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, en juin 44, le débarquement, c'est la débandade et le site est abandonné jusqu'à l'écroulement final du Reich l'année qui suit.
Que devient ensuite ce site ?
Alors cette grande coupole est bombardée à nouveau en 45, plutôt dynamitée que bombardée d'ailleurs. C'est Winston Churchill qui donne l'ordre à ses ingénieurs de venir bombarder les accès, toutes les galeries de la coupole, contre l'avis d'ailleurs de Gaulle qui n'était pas d'accord. Il décide de bombarder puisqu'il pressent déjà la menace soviétique et il ne veut pas que les soviétiques prennent position dans la coupole puisque la menace aurait été à nouveau réelle pour les Anglais. On voit que évidemment il avait vu juste. Et donc, personne n'accède finalement, à part les enfants du coin, qui trouvent évidemment des petits passages. Et jusqu'en 97, la coupole est abandonnée, tout simplement. Et en 97, ouvre la coupole, le centre d'histoire, le musée dans lequel on se trouve actuellement, qui est dédié évidemment à la Seconde Guerre mondiale, à la vie sous l'occupation, aux difficultés de la vie quotidienne, à l'invasion, l'exode, la déportation, le génocide, tout ce qui fait la terrifiante histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis également, et là c'est toute l'originalité de la coupole, tout un circuit sur les armes secrètes que les Allemands, que les nazis plutôt, ont mis en place. La bombe volante V1, la fusée V2, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et la forteresse V3, hein, le canon de Londres, qui est situé à Mimoyac, près de Calais également, qui devait aussi envoyer des obus fléchettes en masse sur Londres. On découvre toutes ces armes secrètes nazies, on découvre également les armes mises au point par les Alliés, notamment la bombe atomique qui a mis un terme à la Seconde Guerre mondiale, et puis on suit dans ce circuit petit à petit la progression de la technologie, partant de la fusée V2, on découvre la fusée Redstone, Soyuz, etc., etc., jusqu'à Saturne V, et on découvre, avec souvent beaucoup de stupéfaction, que l'homme qui est derrière la fusée V2, on en parlait tout à l'heure, Werner von Braun, ce jeune ingénieur, eh bien on se découvre qu'il se rend en 45 aux Américains, qu'il est récupéré avec une centaine d'ingénieurs, et c'est lui qui va mettre au point tout le programme spatial américain. C'est l'inventeur de la fusée Saturne V, et c'est celui qui dirigea la mission Apollo, qui a emmené l'homme et Armstrong sur la Lune. Donc on a le même homme, la même technologie, la même histoire intrigante entre la fusée V2 d'Hitler et la fusée Saturne V et l'homme, le premier Américain sur la Lune.
Voilà, je pense maintenant que les auditeurs ont compris pourquoi on parle de la Seconde Guerre mondiale dans cette émission aujourd'hui. Toujours dans cet historique, vous avez dit qu'en 1987, c'est un musée de la guerre mondiale. Et puis ensuite, vous êtes intéressé à l'astronomie et notamment de faire un planétarium.
Oui, c'est ça. Dès l'ouverture en 97, la coupole parlait évidemment de la conquête spatiale. On parlait de Spoutnik, on parlait de l'homme sur la Lune, puisque c'était partie intégrante de la muséographie et de ce lien étroit avec la fusée V2, de cette continuité. Mais c'est vrai qu'en 2010, déjà, la coupole a fait complètement peau neuve, c'est ultra modernisé. Aujourd'hui, la coupole, c'est un centre d'histoire ultra moderne qui présente des heures de films, des films en 3D, des tables tactiles pour manipuler des photographies aériennes, etc. Et cette modernisation a été suivie en 2012 avec l'ouverture du premier planétarium du Pas-de-Calais. Un planétarium 3D qui est dédié là aux sciences de l'espace et puis aux sciences tout court aussi, puisque le planétarium peut tout à fait nous parler d'autres sciences, paléontologie, des sciences humaines, etc. Mais c'est évidemment un lieu prioritairement dédié aux étoiles, puisque dans ce planétarium, eh bien, on continue le fil d'Ariane, si je puis dire, puisqu'on repart du musée avec l'homme sur la Lune en 69, et puis au planétarium, après la visite du centre d'histoire, eh bien, on continue l'histoire et on découvre tout ce qu'on a fait depuis en images 3D, images de synthèse ultra réalistes, dans une grande salle ronde à 360 degrés sur un écran de projection hémisphérique, avec plus de 170 mètres carrés de projection, une technologie 3D unique en Europe, puisque ce sont des lunettes 3D actives, donc un réalisme absolument spectaculaire, et bien on diffuse des films et des séances d'astronomie, de simulation et de présentation du système solaire, de planètes qui nous entourent, et puis évidemment des films qui reprennent l'histoire de la conquête spatiale, des films qui nous plongent au cœur des observatoires, des grands observatoires du monde, ou encore des films qui nous font découvrir les galaxies lointaines, etc., etc. Donc c'est vraiment un lieu dédié à l'émerveillement finalement pour l'espace, pour l'univers, à l'émerveillement scientifique devant tout ce que l'on a pu découvrir et toutes les prouesses qu'on a pu réaliser depuis, sans oublier, et c'est là toute la force de la coupole, sans oublier le lien paradoxal. Si aujourd'hui on s'émerveille d'ISS ou de recevoir nos appels téléphoniques partout sur la planète, eh bien ici on rappelle que tout ça était possible que, parce qu'il y a des lanceurs, et s'il y a un lanceur, c'est parce qu'il y a eu la fusée V2. La fusée V2, en pleine Seconde Guerre mondiale, fabriquée par les nazis, est bien l'ancêtre de toute la conquête spatiale, et c'est une technologie développée en pleine Seconde Guerre mondiale qui est encore celle utilisée actuellement.
Alors voilà pour le décor. C'est vrai que l'historique du lieu a mis un peu de temps, mais il fallait bien faire comprendre aux auditeurs en fait le lien entre la Seconde Guerre mondiale, ce lieu et le thème de l'émission, qui est bien sûr de l'astronautique. Alors eh bien maintenant je vous propose de vous suivre dans une visite.
Très bien, ben continuons alors. Donc là, on est arrivé sous le dôme de béton, et on a deux circuits au choix, à notre droite et à notre gauche. Moi, je vous propose de partir vers la fusée tout de suite. Là, on a la fusée V2 sous nos yeux, là, qui est sous le dôme en position d'attaque, puisqu'elle pointe vers le bas, et elle est assez terrifiante hein, quand on la voit comme ça. On se rend compte de la dimension 14 mètres de long, cette fusée 14 mètres de long, avec un moteur que l'on voit ici en bas, avec évidemment le principe de la tuyère hein, qui est encore utilisé aujourd'hui. On a en face le film 3D explicatif du fonctionnement de la fusée, très pédagogique, très didactique. Ici, on reçoit quand même plus de 35 000 scolaires et énormément de familles parmi nos visiteurs. Donc on a aussi en face évidemment la base secrète de Peenemünde 2, là où était fabriquée la fusée V2, avec les 12 000 ingénieurs alignés comme ça sous les drapeaux nazis. On a vraiment un rapport saisissant entre des images fortes de l'histoire et puis cette technologie de fusée qu'on a sous les yeux. On va descendre et puis aller se rapprocher un petit peu de la fusée V2.
Je vous suis. Là, on est juste en dessous cette fusée V2.
Voilà, on est sous la fusée V2, là, qui est encore plus terrifiante comme ça. On a ici, à la pointe de la fusée V2, la pointe, c'est là où étaient placés les explosifs. À peu près une tonne d'explosifs. Ce qui n'est pas énorme pour l'époque, puisque en face, les Alliés utilisent des bombes Tallboy, notamment, des bombes Tallboy qui transportent à peu près 5 tonnes d'explosifs. Ici, on a un peu moins d'une tonne. Donc, la charge explosive de cette fusée V2 n'est pas spectaculaire. Par contre, ce qui est spectaculaire, c'est sa vitesse. Je vous le disais tout à l'heure, 3900 mètres seconde à son arrivée. On voyait l'explosion et la fumée de l'explosion avant d'entendre le bruit de l'arrivée de la fusée. Et ça, c'était terrifiant pour les Anglais, qui, je le rappelle, étaient la cible de cette fusée V2. Et donc, tout le fuselage, tout le corps de la fusée, c'est finalement le réservoir de carburant et de comburant, puisque à son altitude, elle décolle à plus de 90 km, il n'y aurait pas eu assez d'oxygène pour l'alimenter, donc elle transporte son oxygène liquide et son carburant. Et tout au bout, évidemment, le moteur, et là, on voit la fusée V2 en image de synthèse 3D, qui décolle à la verticale pour aller atteindre sa cible. Elle était auto-équilibrée et puis guidée par avant, c'est-à-dire qu'on calculait son angle, etc., pour arriver, ce qui lui donnait une précision relative à quelques kilomètres près, mais malgré tout, il y a certaines fusées V2, notamment à Anvers, une fusée V2 qui tombait précisément sur un cinéma qui était plein à craquer et qui a causé plus de 500 morts avec l'explosion du cinéma. Donc c'était une arme absolument terrifiante, puisque rien ne pouvait l'arrêter et il était impossible de la voir arriver. Voilà, donc on va continuer un petit peu et découvrir les autres armes secrètes, puisqu'on est dans le circuit des armes secrètes. Là, ici, on est devant la bombe volante V1, qui ressemble à un petit planeur. Cette bombe volante V1 a été mise au point juste après la fusée V2. Mais elle a été utilisée beaucoup plus largement que la fusée V2, puisqu'elle coûtait beaucoup moins cher à fabriquer. Ce petit planeur ici, V1, qui était catapulté sur des rampes de lancement, qui planait au-dessus de la Manche et qui allait s'écraser sur l'Angleterre. On continue notre petit voyage dans la progression des armes, là évidemment la bombe atomique. Donc là on a un exemplaire taille réelle. Je rappelle que tout à l'heure la fusée V2, c'est une fusée V2 authentique, bien sûr. C'est la seule fusée d'ailleurs V2 qui est exposée en France. Donc c'est ici à la coupole qu'on peut en voir un modèle véritable. Là ici cette bombe atomique, développée donc par les Américains. Et puis on voit là Werner von Braun qui se rend sur cette photo là ici en face de nous qui se rend aux Américains en 45. Et l'on avance progressivement, on voit différents témoins aussi de cette fusée, des moteurs qui sont aujourd'hui plus qu'un amalgame de métal, puisque avec la chaleur et l'explosion on n'en retrouvait qu'un amalgame de métal. Et puis là, ici, au bout du circuit, évidemment on va très vite, on est dans la salle de la conquête spatiale. On a ici devant nous la fusée V2 à échelle 1/20, et puis toute une progression. Là ici on a la Mercury Redstone. Ensuite, on a la fusée Zemurka, et puis petit à petit, on voit le modèle de fusée qui grossit. Mais finalement, quand on regarde la Zemurka, par exemple, et même encore plus tard, la Soyouz qui est devant nous, eh bien, on remarque que partout, il y a cette technologie de la tuyère, et que finalement, la Soyouz, c'est ni plus ni moins que 4 fois 5 fusées V2. Hein, c'est 4 fois 4 plutôt, hein, non, la fusée Soyouz, c'est plus ou moins une addition de fusée V2 avec ses 4 boosters et puis ses 4 tuyères. On est vraiment sur la même technologie au moment de la fabrication de Soyouz par les soviétiques. Soyouz qui est quand même l'engin qui a mis Sputnik en orbite et puis qui a ensuite emmené Yuri Gagarin et toutes les premières grandes étapes de la conquête spatiale soviétique.
Eh bien écoutez, voilà des renseignements très passionnants. Je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles, toujours ici depuis la coupole à Saint-Omer.
IDFM Radio 98 FM.
Vous êtes sur IDFM Radio et vous écoutez l'émission À toi les étoiles, tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h-14h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de la formule de l'été, la rediffusion de l'émission du 18 septembre 2013 qui était consacrée à la coupole, un lieu emblématique où débuta l'histoire de la conquête spatiale. Avec Julien Cadet, chargé de communication de la coupole, nous faisons la visite de ce lieu. Nous continuons donc cette visite. Donc nous avons vu tout à l'heure toutes ces progressions par rapport au V2 et les différentes fusées. Et là, on est devant une fusée ô combien célèbre, puisque c'est Saturne 5.
Ouais, Saturne 5 qui a emmené l'homme sur la Lune. On voit d'ailleurs Wernher von Braun, le personnage clé de cette histoire de la conquête spatiale, puisque c'est lui qui a fabriqué et mis au point la fusée V2 en 42-43. Et c'est lui qu'on voit là, sous la photo, posée fièrement devant la Saturne 5 qu'on a aussi sous les yeux, évidemment en maquette. Elle nous paraît énorme là, puisqu'elle touche le haut du dôme, elle est à l'échelle 1/20, et la fusée V2 paraît toute petite à côté, alors qu'elle nous paraissait pour le coup énorme tout à l'heure. On se rend compte de l'immensité justement de ces engins, et puis finalement la Saturne 5, on se rend compte que c'est ni plus ni moins qu'une fusée V2 géante, hein. C'est la même technologie, c'est le même principe, et puis c'est surtout le même homme derrière, c'est surtout ce Wernher von Braun que l'on retrouve en 69 aux côtés des Américains, alors qu'il était en 42 aux côtés d'Hitler pour la fusée V2. C'est tout le paradoxe de cette histoire. Il y a aussi évidemment des petites histoires dans la grande histoire, et la conquête spatiale n'en manque pas. On disait tout à l'heure de Wernher von Braun qui s'était rendu aux Américains juste à la fin de la guerre, puisqu'il était pourchassé à la fois par les Soviétiques qui voulaient le récupérer, par les nazis qui ne voulaient pas que leur cerveau tombe dans la main des alliés, et par les alliés eux-mêmes qui voulaient aussi récupérer l'homme derrière la fusée V2. Donc il se rend aux Américains, et les Soviétiques de leur côté mettent la main sur l'usine de fabrication des V2. Les V2 n'étaient pas fabriquées à la coupole, elles étaient fabriquées dans un camp de concentration, un camp de travail situé sur le territoire de la Pologne, à l'époque, qui est l'usine de Dora, une usine souterraine où était fabriquée la fusée V2. Ils mettent la main donc sur cet endroit, sur des modèles de fusée V2, et les Soviétiques décident de percer le secret de cet engin pour le moins intrigant. Ils ressortent du goulag leur génie soviétique, Sergueï Korolev, qui est un brillant ingénieur aussi astronautique. Ils le sortent du goulag et ils lui demandent de percer le secret. Il y arrive très bien et perce le secret de la V2 assez rapidement. Il est capable assez rapidement, quelques années, d'en fabriquer des modèles similaires. Et puis les soviétiques entrent en pleine guerre froide avec les américains et c'est parti pour la course à l'espace et à l'exploit spatial. Les soviétiques prennent de vitesse les américains qui ont récupéré Von Braun mais qui n'y croient pas beaucoup et qui ne souhaitent pas que Von Braun soit trop exposé à l'opinion américaine puisque je rappelle que c'est quand même un ancien nazi. Donc en même temps les soviétiques prennent de l'avance et puis ils les prennent de vitesse puisqu'ils mettent au point la Zemyorka qui permet l'exploit de Sputnik. Sputnik c'est quand même le coup de poing en plein de figure aux américains qui sont vexés et ils continuent, ils surenchérissent avec Yuri Gagarin puis ensuite Valentina Tereshkova qui est la première femme dans l'espace et ensuite Leonov qui fait la première sortie spatiale. C'est une véritable cascade d'exploits et les américains sont absolument paniqués et se rendent compte du retard qu'ils ont. Ils décident de remettre Von Braun au centre du jeu, lui donne des moyens absolument colossaux. John Fitzgerald Kennedy compte sur lui pour relever le défi qu'il a lancé. JFK avait dit en 61, il faut qu'avant la fin de la décennie, nous envoyions un homme sur la Lune, qu'il soit américain et qu'il rentre sain et sauf. Voilà le défi de Kennedy. Et Von Braun va relever le défi en 69 et va réussir à abattre ses cartes avant la fin de la décennie et à battre les soviétiques qui n'étaient pas loin eux également puisqu'ils avaient déjà fait des tests d'approche de la Lune avec notamment le module Lunar et donc il abat à plate couture les soviétiques en 69. Ce qui est intéressant c'est que les deux génies d'un côté, du côté américain, Von Braun, du côté soviétique, Sergei Korolev, ne se connaissent pas, ne savent pas, en tout cas, surtout pour Korolev, puisque c'était le grand secret soviétique. Et Von Braun ne prend connaissance de Korolev qu'au moment de sa mort, quelques années avant l'homme sur la Lune. C'est d'ailleurs la mort de Korolev qui explique aussi l'échec des soviétiques, finalement, puisque Korolev ayant disparu, là, ça donne un grand coup d'arrêt à la progression des soviétiques, et ça redonne l'avantage côté américain et du côté de Von Braun. Donc on a une véritable concurrence comme ça dans les deux camps. La guerre froide a joué aussi un rôle énorme dans la conquête spatiale et dans cette course effrénée vers l'espace. Et encore une fois, on se rend compte qu'on ne peut pas considérer les sciences et l'astronautique, on ne peut pas considérer l'essor des sciences sans regarder l'histoire qui nous éclaire grandement justement sur cette incroyable évolution des sciences au XXe siècle.
Tout à fait, oui. Nous poursuivons la visite.
Alors là, on entre dans une zone particulière. Je vais baisser un petit peu la voix, puisqu'on est dans une zone un peu plus de recueillement, un peu plus encore dramatique. On est actuellement, là, vous voyez devant nous, on a des dessins de pendaison de gens en habits déportés. Voilà, on voit là des dessins de corps, des dessins décharnés, des dessins au fusain. Là, on est en plein cœur de l'usine de Dora. Là, on est en plein laboratoire de la fusée V2, c'est là où était fabriquée la fusée V2. Je disais tout à l'heure, c'est un camp de travail dans des conditions de travail absolument terribles, où la mortalité est impensable, où la brutalité des capots est absolument démentielle. C'est une véritable folie nazie que ce camp de Dora, et c'est de ce camp de Dora que sortira les premières fusées V2, les 6000 fusées V2 qui ont été au total fabriquées. On est devant un témoignage de Léon Delarbre qui fait partie de ces détenus. Il est détenu au camp de Dora, il participe à la fabrication des fusées V2 et il dessine au péril de sa vie. Il dessine avec des morceaux de charbon et des vieux papiers trouvés à droite et à gauche. Il dessine ce qu'il voit. Donc on a toute l'horreur du camp de déportation. Et là, on se rend compte du prix de la fusée V2. Le prix, c'est ces détenus. C'est 25 000 morts au total. 25 000 morts dans ce camp de déportation, ce camp de travail de Dora. 25 000 morts pour fabriquer, finalement, la première fusée de l'histoire. Pour fabriquer l'ancêtre de toutes les fusées. Alors, quand tout à l'heure, on voyait Werner Von Braun poser fièrement devant Saturne V, et bien ici, on vient se rappeler juste derrière que le prix... c'est pas les millions de dollars de Saturne V, le prix c'est ici. C'est ces 25 000 personnes qui ont donné leur vie, qui ont perdu leur vie, surtout, pour fabriquer la première fusée. Donc la coupole est là aussi pour rappeler le véritable prix de tout ça. Il faut pas oublier, quand on s'émerveille des merveilles qu'on arrive à faire aujourd'hui, des prouesses qu'on peut faire, il faut pas oublier le prix humain de tout ça, le prix humain que l'on trouve en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est ici, finalement, les racines et le berceau de la conquête spatiale. Et la conquête spatiale trouve ses racines vraiment dans le terreau de l'horreur et de la folie humaine. Donc voilà, c'est important d'en avoir conscience, parce qu'on peut encore plus, justement, s'émerveiller de nos prouesses actuelles, de la paix relative, en tout cas dans nos pays occidentaux et européens, de la paix dans laquelle on vit. Ici, en voyant tout ça, on se rend compte du prix de tout ça et de à quel point nous devons la préserver, à quel point aussi les sciences doivent nous aider maintenant à maintenir la paix entre les peuples, la coopération, notamment scientifique, à partager notre savoir à l'échelle de l'humanité, puisque c'est l'humanité entière qui a payé pour ces progrès. Et là également, on a maintenant un autre témoignage, c'est vraiment la défotographie de la découverte des camps, là avec le général Eisenhower qui découvre le premier camp, avec toutes ces victimes qui ont été abattues, tous ces gens qui ont été abattus en pleine débâcle allemande.
C'est toujours sur le camp où a été fabriqué.
Alors là non, là c'est on n'est plus dans le camp. Là c'est la découverte du camp d'Ordruf par Eisenhower. Et là c'est évidemment aussi tout le contexte historique qu'on découvre aussi. On va découvrir plus loin la vie pendant l'occupation, la violence de l'invasion, etc., etc. C'est tout un autre circuit de la coupole qui nous intéresse moins aujourd'hui, mais que je signale quand même, puisque évidemment on ne peut pas comprendre les armes secrètes sans comprendre également tout le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Donc on le découvre aussi ici à la coupole, puisque c'est quand même historiquement un centre d'histoire, si, mais maintenant qui s'est transformé en un centre d'histoire et de science, qui fait le lien très paradoxal entre l'histoire et le progrès scientifique.
Je peux vous dire en tout cas que ça prend aux tripes quand on voit déjà les dessins qui sont particulièrement bien dessinés et également les photos d'univers concentrationnaire. Nous poursuivons la visite vers une autre partie.
Voilà, on continue à faire le tour du dôme hein, puisqu'on est vraiment sous ce dôme. C'est vrai que l'ambiance est saisissante en tant que telle puisqu'on est sous le dôme de béton qui n'a pas été aménagé. On voit la croûte de béton armé, on voit les traces, on voit des barres de fer. On est vraiment au cœur du lieu historique. Là, on est devant une réplique du mur des fusillés de Lille qui diffuse en lettres de lumière les derniers mots d'un jeune homme de 21 ans, un jeune instituteur qui s'appelle Félicien Joly et qui, sur ce mur des fusillés, est tombé sous les balles allemandes. Et 3 heures avant de tomber sous les balles, il écrit une lettre à sa famille, à ses proches. Et on la diffuse parce qu'elle est absolument incroyable, puisqu'il dit en substance, je ne vais pas vous la lire en entier, que cette lettre est la dernière qu'il va écrire et qu'elle arrivera après sa mort et qu'elle va éveiller en eux de douloureux souvenirs. Il écrit aussi avec un courage inouï qu'il a vu, et c'est là, c'est important, il écrit, j'ai vu dans le regard des soldats allemands que eux aussi détestent la guerre. Et il salue. Dans cette lettre, il salue les nobles fils de la Grande Allemagne. Je ne sais pas si vous imaginez que c'est un jeune homme de 21 ans qui sait qu'il va se faire tuer dans 3 heures par des Allemands et qui écrit « Je salue les nobles fils de la Grande Allemagne ». C'est absolument incroyable. C'est d'une humanité absolument impensable. Et il se dit d'un prix Nobel de la paix, mais on n'en est même pas là. C'est encore plus haut que ça. Mais voilà, ici dans le centre d'histoire, on développe aussi, on veut faire passer ce témoignage de la mémoire de ces gens qui ont connu ça. Et on est face à face avec eux, puisque avec ce côté ultramoderne du musée, ces grandes images qu'on a partout, on est vraiment face à notre histoire, à nos racines, aux ruines qui font aussi l'identité de notre région et de notre pays. Et face aux gens qui ont vécu ça, puisqu'aujourd'hui... la mémoire vivante s'efface petit à petit avec les gens qui l'ont vécu, qui disparaissent progressivement, malheureusement. Et donc, la coupole est là aussi pour entretenir cette mémoire vivante, pour la rendre actuelle, contemporaine.
J'ai remarqué une chose, vous l'avez dit d'ailleurs dans le descriptif, c'est que c'est très moderne. Et alors, c'est assez paradoxal de voir dans un lieu qui a quand même 70 ans, oui, c'est ça, de voir toute cette modernité.
Cette modernité, elle est là, pourquoi ? Parce que... quand on parle de préserver la paix, d'éveiller les consciences, évidemment, on parle des plus jeunes, de tous, mais prioritairement des plus jeunes. C'est ces jeunes que le déclic soit se faire, que la prise de conscience doit se faire. Aujourd'hui, les jeunes, ils jouent avec leur DS 3D, ils ont leur téléphone tactile, ils ont, pour les plus chanceux, des iPads, les ordinateurs, etc., etc. Donc, ils sont en plein air numérique, virtuel, ultra connecté. Et si on veut parler à cette jeune population, il faut qu'on soit à la même hauteur, il faut qu'on parle le même langage. Donc dans ce centre d'histoire, on parle le même langage, on est en plein cœur des technologies, de l'audiovisuel, du tactile, etc. Puisqu'il faut pouvoir leur parler. C'est pas en mettant des grandes bâches avec des photos et des milliards de textes qu'on va leur parler, c'est en utilisant les outils d'aujourd'hui pour que la mémoire soit la plus contemporaine possible, la plus vivante possible. Et c'est comme ça qu'on va planter une graine dans leur esprit, c'est comme ça qu'on va faire bouger les consciences, qu'on va éveiller les gens et qu'on va faire en sorte que la paix soit préservée et que ces milliers, ces millions de disparus ne sont pas morts pour rien.
Nous sommes revenus donc au point de départ de tout à l'heure.
Oui, là nous avons fait des circuits et on revient évidemment au cœur du dôme, sous le dôme. Et on va passer par la sortie. Mmh. Et on va découvrir une salle impressionnante qui est la salle de préparation au tir, qui est la salle où devaient arriver les fusées V2 verticales, être chargées en carburant et sortir du dôme pour aller décoller et frapper l'Angleterre. On va y aller tout de suite.
Eh bien, je vous suis. Nous voici donc arrivés dans le lieu de préparation. On a changé de niveau.
Voilà, là, on est descendu au niveau zéro, on va dire, parce que sous le dôme, on est à peu près à 42 mètres de hauteur, puisque le dôme est posé sur un mont, puisqu'il a été fabriqué directement, coulé directement sur la craie, sur un mont de craie. Et donc là, on est tout en bas, et c'est là où devait arriver, et là, on arrive dans une salle impressionnante, où devaient arriver les fusées V2, qui est très très haute, hein, pour laisser passer les fusées en hauteur. Et on est dans la dernière salle qui aurait dû être terminée. On voit qu'elle est partiellement terminée, puisqu'on a toute la hauteur, des murs très hauts. On a trois balcons qui montent jusqu'à 14 mètres de hauteur pour permettre à des officiers, à des techniciens allemands de serrer les derniers boulons, de mettre le carburant, le comburant, et la fusée avancer comme ça, comme nous, tout doucement, pour après sortir par une porte énorme que l'on voit plus très bien aujourd'hui, une grande porte de 14 mètres, mais qui était prête également. Et là, on a juste encore, on va dire, plusieurs mètres cubes de craie qui auraient dû partir, mais on se rend compte du niveau d'achèvement de la coupole, et on évalue environ à quelques jours de travail supplémentaires pour vraiment finir l'ensemble du complexe de la coupole. Donc, la particularité du lieu, c'est ça, c'est un site qui n'a jamais réellement servi, et il manquait quelques jours pour être opérationnel. Avec une fusée V2 qui fonctionnait fort bien, on imagine que du jour au lendemain, cette base aurait été en marche et aurait, d'un jour sur l'autre, envoyé 50 fusées par jour, une fusée toutes les demi-heures sur Londres. On imagine très bien qu'en quelques jours, eh bien, l'Angleterre aurait pu être définitivement défigurée.
On peut dire qu'il était vraiment temps que les Alliés arrivent, quoi.
Il était temps qu'ils arrivent, il était temps qu'ils bombardent, qu'ils débarquent en Normandie. Bref, ça s'est joué à pas grand-chose.
En effet. Voilà donc pour cette visite. On va s'interrompre de nouveau pour une nouvelle pause musicale. Et puis ensuite, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission où là, on va découvrir le planétarium de la coupole. A tout de suite.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est IDFM Radio et c'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h, 14h, la formule de l'été. Et en cette année 2024 où nous célébrons les 80 ans du débarquement, je vous propose la rediffusion de l'émission du 18 septembre 2013 qui était consacrée à la coupole, un lieu emblématique où débuta l'histoire de la conquête spatiale. Une émission ô combien passionnante. On va poursuivre cette émission avec la dernière partie où on va changer d'interlocuteur. Et après avoir vu le centre historique, eh bien, on arrive à la fin de la visite et dans un endroit très moderne puisque c'est le planétarium. Et je change d'interlocuteur qui va se présenter.
Nicolas Fiollet, responsable du planétarium.
Parlez-nous un peu de ce planétarium.
Alors, nous sommes ici dans un planétarium de 15 mètres de diamètre, un équipement ultra moderne, bâti selon la volonté du Conseil Général du Pas-de-Calais, et qui a la particularité d'être l'un des seuls planétariums 3D de France et l'un des seuls au monde équipés de la 3D active, c'est-à-dire que les lunettes sont occupées d'un petit moteur électrique qui va alternativement masquer l'œil gauche et l'œil droit.
Dans ce planétarium qui est immense, hein, qu'est-ce qu'on peut y voir au juste ?
Alors on peut y voir déjà les étoiles et aussi des voyages à travers le système solaire ou à travers même notre univers. Hein. Nous avons une séance qui nous permet d'aller jusqu'à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, hein, donc vraiment très loin de chez nous. Et puis également des films de planétarium en 3D à l'aube de l'ère spatiale qui retrace la conquête de l'espace de 1957 à nos jours, ou encore le film Monstre des mers qui permet de voir les créatures marines qui peuplaient le fond des océans il y a 82 millions d'années dans un autre système.
Le principe de projection, est-ce qu'on peut en parler ?
Alors le principe repose sur 6 vidéoprojecteurs qui sont synchronisés à un dixième de millième de seconde. Voilà. Donc ils diffusent à 120 Hz, 60 images pour l'œil droit, 60 images pour l'œil gauche alternativement, et des projecteurs de 70 kg chacun, extrêmement lumineux, puisqu'ils font entre 7000 et 12000 lumens.
On va assister dans quelques instants à la projection à l'aube de la conquête spatiale, hein, c'est ça ?
À l'aube de l'ère spatiale, oui. Donc il y aura d'abord la visite du système solaire, et puis après le grand film à l'aube de l'ère spatiale.
On va être pris par le temps, je ne pourrai pas enregistrer la séance entière, mais on en écoutera un extrait. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce planétarium. Merci de m'avoir accueilli ici, qui marque la fin de cette visite de la coupole. Et dans quelques instants, donc, on va pouvoir assister à la projection et vous pourrez entendre un extrait avant de conclure cette émission À toi les étoiles.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette séance de planétarium. Je suis Nicolas et je serai votre guide pour notre voyage qui va nous mener à travers le système solaire avant la diffusion du film à l'aube de l'ère spatiale. Et c'est un voyage qui débute ici, à la coupole dans le Pas-de-Calais, dans l'Audomarois. Mais nous n'allons pas rester ici bien longtemps puisque nous allons tout de même parcourir plus de 10 milliards de kilomètres au cours de cette séance. 5 milliards à l'aller et 5 milliards au retour. Et donc sans plus attendre, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Hauteur qui nous offre un panorama sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, sur la Belgique, les Pays-Bas ou encore sur la Grande-Bretagne. Voici ce que va être notre voyage. Nous allons nous intéresser aux planètes, nous allons nous intéresser à Mercure, à Vénus, à Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ou encore à Neptune. Mais avant de parler de ces planètes, nous allons parler d'une étoile. De notre étoile. Le Soleil. Et le Soleil, c'est une étoile moyenne. Ni plus grosse, ni plus petite, ni plus chaude, ni plus froide que la majorité des étoiles du ciel, que la majorité de ces points blancs que vous apercevez derrière. La seule différence entre notre Soleil et ces étoiles, c'est sa distance. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de la Terre que n'importe quelle étoile du ciel. Il nous apparaît jaune à cause de sa température, environ 5500 degrés à sa surface. À la surface du Soleil, on voit également des taches sombres, ce sont les taches solaires. Si elles sont sombres, c'est qu'elles sont plus froides, elles émettent donc moins de lumière. Mais quand je dis plus froid, c'est tout relatif. Si la surface du Soleil est aux alentours de 5500 degrés, les taches solaires, elles, sont aux alentours de 4000. La première planète que nous rencontrons au cours de notre voyage, c'est Mercure. Et Mercure ressemble comme deux gouttes d'eau à notre Lune. Ici non plus, pas d'atmosphère, pas de pluie, pas de vent, rien pour effacer une trace à la surface de Mercure. Une trace à la surface de Mercure sera donc indélébile, ce qui explique tous ces cratères. Nous sommes ici tout proche du Soleil, qui se trouve tout de même à 60 millions de kilomètres. Mais cette proximité fait que sur Mercure, il va faire très chaud, 450 degrés durant la journée. Par contre, la nuit, il fera très froid, environ moins 150. On est alternativement grillé, puis gelé, à la surface de Mercure. On a une bonne idée de ce à quoi ressemble cette planète depuis 2011, depuis que la sonde Messenger nous en a fait une carte quasi complète. La deuxième planète que nous rencontrons, on l'appelle parfois l'étoile du berger. Mais ce n'est pas une étoile, c'est bien une planète. Il s'agit de la planète Vénus. Et si sur Mercure il n'y a pas d'atmosphère, sur Vénus, il y en a une. Elle est même très épaisse, plus de 60 km d'épaisseur. Du reste, Ici, vous ne voyez pas le sol de Vénus. Vous voyez un immense nuage qui l'entoure. Le sol de Vénus ressemble à ceci. Ces images nous ont été transmises par la sonde Magellan. Sur Vénus, il fait 400 degrés partout sur la planète. Et il pleut de l'acide sulfurique. Vous l'avez compris, c'est un endroit tout à fait charmant. S'il fait si chaud à la surface de Vénus, ce n'est pas à cause de la proximité du Soleil. Le Soleil est déjà bien loin d'ici, 105 millions de kilomètres. S'il fait si chaud, c'est à cause des nuages. Les nuages jouent le rôle d'un couvercle par-dessus la planète. Ils vont bloquer la chaleur à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. On dit parfois que Vénus et la Terre sont des planètes jumelles. Et c'est vrai, elles ont un diamètre, une largeur si vous préférez, comparable, d'environ 12 000 km. Et si nous ne faisons pas plus attention sur Terre à nos émissions de gaz à effet de serre, nous pourrions bien devenir un jour la jumelle de Vénus par un autre point, une température qui deviendrait invivable. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première partie de notre séance. Avant de passer à la diffusion du film « À l'aube de l'ère spatiale », où nous verrons la guerre, heureusement pacifique, que se sont livrés les Soviétiques et les Américains à partir de 1957 pour la conquête de l'espace, peut-être avez-vous des questions sur ce que vous venez de voir ou sur un autre sujet. Pas de questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au film « À l'aube de l'ère spatiale ». Je vous souhaite un excellent film.
Tout au long des siècles, l'humanité a rêvé de conquérir l'espace et de s'envoler à travers le cosmos. Et tout au long des siècles, cette aspiration n'est restée qu'un rêve. Mais au cours du XXe siècle, l'extraordinaire développement de la science et des technologies a permis à ces rêves de devenir réalité, ici, dans les steppes du Kazakhstan. Quand un train, issu de la révolution industrielle, emmena son successeur vers sa piste d'envol, une nouvelle révolution s'amorça. Le passage du flambeau fut réalisé. Pour tous les peuples du futur, c'est ce jour qui marquera l'avènement d'une ère nouvelle. Ce jour où l'humanité apprit comment quitter la Terre, le 4 octobre 1957. L'aube de l'ère spatiale. L'Union soviétique lança un objet appelé Spoutnik, plus haut et plus rapidement que tout ce qui fut tenté auparavant. Il atteignit une vitesse fantastique, telle que la Terre s'arrondissait au loin avant que la gravité ne le ramène au sol. Orbitant autour de la Terre sans exiger la puissance d'une fusée, Spoutnik fut le premier satellite artificiel de la Terre. Les radios amateurs à travers le monde purent capturer ses signaux. Par contre, lui envoyer des bips ne servait à rien. Spoutnik ne put transmettre qu'un message à la Terre. « Je suis là !» De nombreuses personnes se souviennent avoir vu Spoutnik traverser le ciel nocturne, même si en réalité, il ne voyait qu'un gros étage de fusée traîner derrière lui. Les bips envoyés par Spoutnik à travers le monde secouèrent les États-Unis. L'Union soviétique avait réussi une belle avancée technologique. Ce soufflet à la fierté de la nation américaine entraîna la création de la NASA, une organisation gouvernementale chargée d'envoyer un Américain dans l'espace le plus rapidement possible. La course vers l'espace était lancée. Un mois plus tard, les Soviétiques frappèrent à nouveau en lançant un autre Spoutnik. Spoutnik 2 était 6 fois plus massif et emmena un passager à bord, une chienne nommée Laïka. Laïka était la première créature vivante orbitant autour de la Terre. Mais sans système de retour vers la Terre, elle était condamnée. Laïka ne survécut que quelques heures dans l'espace et mourut épuisée par la chaleur. Les missions suivantes ramenèrent des chiens sains et saufs sur Terre, ouvrant la voie au premier vol humain. Les effets de l'apesanteur sur le cerveau humain étaient très mal connus. Aussi, une capsule complètement automatique fut réalisée, le Vostok, un nom signifiant « Est ». À la surprise du monde entier, le 12 avril 1961, Vostok 1 transporta un homme dans l'espace. c'était le premier voyage humain au-delà de l'atmosphère terrestre et la première fois qu'un homme fut mis en orbite. L'Union soviétique avait gagné la course à l'espace. Le cosmonaute, dans le Vostok, au célèbre sourire, était Yuri Alexeyevitch Gagarin.
Nous voici sortis du planétarium, donc c'est une séance qui dure normalement 50 minutes, voire une heure si le public pose des questions. Là, vous avez eu que des extraits. Hein. Nous voici donc dans le hall et on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles. Avant de terminer, Julien Cadet, pour les auditeurs qui souhaiteraient venir ici à la coupole, quelles sont les coordonnées ?
Alors la coupole s'est située juste à côté de Saint-Omer, dans le département du Pas-de-Calais, à environ une heure de Lille. C'est également à environ 2h30 de Paris et de Bruxelles. Et pour y venir, c'est donc la coupole à rue Clabaux, C-L-A-B-A-U-X, à Huizernes, W-I-Z-E-R-N-E-S. C'est fléché depuis Saint-Omer. Et la coupole est ouverte tous les jours de l'année, de 9h à 18h et de 10h à 19h en juillet-août. Le Planétarium propose des séances tous les jours également. Et toutes les informations pratiques, horaires, séances, films, etc. elles sont bien évidemment disponibles sur www.lacoupole-france.com, lacoupole-france.com. Plus simplement, vous tapez La Coupole dans Google et vous trouverez notre site internet qui reprend toutes les infos actualisées jour après jour.
Un numéro de téléphone ?
Oui, bien sûr. Alors au 03 21 12 27 27, 03 21 12 27 27, pour contacter nos équipes et donc également par email à lacoupole@lacoupole.com.
Merci Julien Cadet. Et puisqu'on arrive au terme de cette émission, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors pour conclure cette émission, le mot de la fin ?
Eh bien, le mot de la fin, je dirais. Évidemment de ne pas manquer au passage du Nord-Pas-de-Calais qui est d'ailleurs une très très belle région à visiter, hein, je pense à nos voisins parisiens et aussi des autres régions. Le Nord-Pas-de-Calais a beaucoup de merveilles touristiques à découvrir, hein, au-delà des clichés qu'on en a parfois. Vous avez la Côte d'Opale qui est à trois quarts d'heure à peu près de la coupole, la Côte d'Opale avec le grand site des Deux Caps qui est classé à l'UNESCO quand même, le Marais Haut de Marois juste à côté de Saint-Omer, donc juste à côté de la coupole, le Marais Haut de Marois qui est également classé à l'UNESCO. Vous avez les Beffrois qui sont classés à l'UNESCO, vous avez les Terrils. Les Flandres sont aussi inscrits au patrimoine. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais, c'est une très très belle région à découvrir. L'eau de Marois, c'est un vrai écrin de nature avec le Marais, avec le parc naturel des Caps et Marais d'Opale. C'est vraiment une très très belle destination à faire sur plusieurs jours ou sur même plusieurs semaines. Voilà, et à votre passage au Nord-Pas-de-Calais, n'hésitez surtout pas à nous rendre visite à la coupole.
Merci beaucoup Julien Cadet pour cette participation. Merci aussi à toute l'équipe de la coupole.
IDFM, 98FM.
Chers auditeurs et passionnés d'astronomie, notre émission consacrée à la coupole, ce lieu historique lié au début de la conquête spatiale, s'achève ici. J'espère que cette rediffusion vous a passionné autant que moi. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la formule estivale a été plus courte cette année pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais rassurez-vous, nous reprenons notre rythme habituel dès le mois prochain. Je vous donne rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13h à 14h pour une nouvelle émission où on parlera du succès du lancement d'Ariane 6, une étape majeure pour l'Europe dans l'exploration spatiale. Et enfin, n'oubliez pas que cette année, notamment la fin de l'année, marque les 20 ans d'À toi les étoiles. Je vous prépare de belles surprises pour célébrer cet anniversaire avec vous. Alors soyez au rendez-vous, merci encore pour votre fidélité et à très bientôt sur IDFM Radio.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.